Bonjour à chacun. Plaisir de vous retrouver. Merci à la louange pour ce moment. C'est vrai que c'était un moment intense, avec belle musique, des très beaux textes. Merci d'avoir osé être vrai. C'est tellement plus facile de faire semblant d'être inspiré. Et oser être vrai, oser... oser laisser les contradictions, les doutes, les questionnements qui sont là, qui nous habitent, oser leur laisser la place, ne pas faire semblant que tout va bien parce qu'on est à l'Église, que tout est facile et que tout est clair parce qu'on est des enfants de Dieu. Non, il y a des moments compliqués, il y a des moments de doute, il y a des moments où on ne comprend pas, il y a des moments où... où c'est le brouillard. Avec ma femme, depuis le mois de novembre, on vit dans le brouillard. Et je peux vous dire qu'on y connaît quelque chose. Et des fois, spirituellement, on est dans le brouillard. Et Dieu peut nous rejoindre dans ce brouillard, si on accepte qu'on est dans le brouillard. Mais si on croit qu'on voit l'aigre, le Mönch et la Jungfrau qui sont juste devant nous quand on est en train de petit déjeuner le matin, alors qu'il y a du brouillard, eh bien Dieu ne peut pas nous rejoindre. Apprendre à être vrai. Et c'est un peu dans cet esprit-là que j'aimerais que nous continuions notre réflexion basée sur ce texte de l'Épître aux Hébreux. L'espérance est comme une ancre de l'âme, bien fermement fixée, qui pénètre au-delà du voile, dans la présence même de Dieu. Et c'est vraiment là, voilà, cette pensée qui va continuer de nous habiter. Tu peux avancer d'une image, toujours en se laissant inspirer un peu par les leçons de ce navire, le HMS Victory. Et on va continuer un petit peu la réflexion qu'on avait commencé un peu la dernière fois, pas la semaine passée, mais la dernière fois. Et tu peux avancer aussi encore d'une image, voilà, merci. Et à l'intérieur du navire, on voyait donc ces deux bits d'amarrage qui tiennent le câble d'ancre, hein, qui fortifie, solidifie tout cela. Mais pour arriver là, il y a une petite étape qu'on a sautée la dernière fois. Vous voyez qu'il y a tout à l'avant du bateau, je ne sais pas si c'est visible là, pas très visible forcément sur l'écran ici, il y a un petit point rouge, c'est l'écubier, c'est par là que le câble entre dans le navire. Il entre dans le navire, il y a un trou à peu près de la circonférence du câble, c'est-à-dire le câble fait 61 cm de diamètre, je vous le rappelle. Et puis ensuite, vous avez ces deux grosses colonnes qui sont les deux bits d'amarrage. Et presque à l'arrière du bateau, vous voyez le cabestan. Et le câble, il va traverser tout le navire. Et pour moi, c'est une image importante de ce qu'est notre espérance. Cette espérance, elle va traverser tout notre être. Elle doit traverser tout notre être. On ne peut pas la sectoriser dans un petit univers religieux, le petit coin spirituel. J'ai bien aimé ce que tu nous as dit tout à l'heure, on n'est pas juste chrétien le dimanche matin, c'est toute la semaine qu'on est chrétien, c'est toute la semaine. Et cette espérance, elle doit traverser notre être de l'avant à l'arrière. Et là, si je faisais la séquence de tout ce qu'il y a dans le bateau, ben il y a la cuisine, entre autres. Hein. Il y a la cuisine, voilà. Quand on est à la cuisine, soit pour manger, soit pour cuisiner, Rose, hein, l'espérance, elle doit être là. Elle doit être là. Il y a aussi la cale aux poudres, un lieu plutôt explosif. Et nous sommes parfois des êtres explosifs. Et l'espérance, elle doit oser traverser aussi ces zones-là de notre vie. Il y a la cale des boulets. Vous savez, les boulets, dans la marine, quand on commençait à faire rouler les boulets, Les marins, il y avait une discipline terrible. Hein. Les marins n'avaient pas le droit de contredire un officier, même si l'officier avait 12 ans. Les plus jeunes, hein, les apprentis, là, c'était des gamins de 12 ans qui donnaient des ordres à des vieux briscards de 50 ans ou 60 ans, mais ils n'avaient pas le droit de contredire. Hein, c'était sous peine de mort. Il y avait une discipline incroyable. Alors, quand ils voulaient manifester leur mécontentement, ils faisaient rouler les boulets sur le pont. Et quand les officiers entendaient rouler les boulets, ils savaient que c'était une situation très dangereuse. Faire rouler les boulets. Oser exprimer ce qui est au fond de nous. Et des fois, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à faire rouler les boulets aussi. Pour dire à Dieu, cette situation-là, je ne la comprends pas. Je ne vais pas faire semblant de l'accepter. J'ai besoin que tu m'expliques. J'ai besoin que tu m'expliques, que tu me dises ce qu'il en est. Oser faire rouler les boulets. Parce que ce câble, il traverse. Parce que cette espérance, elle est là. Elle nous accompagne. J'ai beaucoup aimé le texte sur le chemin, hein, qui disait, voilà, on est sur le chemin et on est déjà dans la présence de Dieu. Et on est déjà dans l'éternité de Dieu. Cette présence incroyable. Tu peux passer à l'image suivante. Voilà, merci. L'autre fois, Freddy m'a posé une question intéressante. Il m'a dit, j'arrive pas très bien à comprendre comment ce gros câble de 61 cm de diamètre arrive à tourner autour du cabestan. Ça me paraît compliqué. Et il avait raison de relever ça. Et je lui ai expliqué un petit peu ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est que, en fait, effectivement, ce gros câble de l'espérance, hein, ne peut pas tourner autour du cabestan parce qu'il est beaucoup trop gros. Alors, pour le faire entrer dans le bateau, pour remonter cette ancre, eh bien, on utilise ce qu'on appelle une tournevire. La tournevire, c'est simplement une boucle, un cordage qui forme une boucle, qui s'enroule autour du cabestan, qui va jusqu'à l'avant du bateau, qui tourne là sur des réas, hein, sur des, voilà, et sur des poulies, et il fait comme ça une boucle, et on va l'attacher à ce gros câble, avec des cordes, hein, tous les 1,50 m, plus ou moins, on attache, et le gros câble est tiré par la tournevire. Quand elle arrive vers le cabestan, on détache, et le câble continue son chemin. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Je ne sais pas si c'est clair dans votre esprit. Et pour moi, ça montre un peu cette vision aussi de ce travail entre Dieu et nous. On a des fois l'impression que la vie spirituelle, c'est du tout cuit, c'est magique. Ça nous tombe dessus. On n'a rien à faire. Dieu a tout accompli. Hein ? Une vie spirituelle comme ça, du tout accompli. Et Dieu nous dit, j'aimerais que tu sois mon serviteur. Et un serviteur, c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui fait le job. Et nous avons un job à accomplir. Nous avons un travail à faire dans la... J'ai toujours eu de la peine avec cette expression de Paul quand il dit, travaillez à votre salut. Puis nous, on dit, oui, mais il y a la grâce. Oui, à la grâce. La grâce, c'est comme ce câble qui est là, qui traverse toute notre vie. Mais il y a la tournevire à fixer. Hein, et ça, c'est notre part, notre travail de méditation, notre travail de prière, notre travail d'acceptation, notre travail de reconnaissance ou de colère, si nous devons être en colère. C'est toute cette expérience. Toute cette expérience. Mais quelle est cette espérance ? Quelle est notre espérance ? Et d'où vient-elle ? En quoi espérons-nous ? Une vie d'éthique ? L'éthique a pris une place incroyable dans la chrétienté aujourd'hui. Pour beaucoup, ça se résume à ça. On est contre l'avortement. Je suis chrétien, je suis contre l'avortement. Je ne vais pas dire si je suis pour ou si je suis contre, c'est pas le débat de ce matin, mais ma vie spirituelle, ce n'est pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mon espérance, ce n'est pas ça. De qui tenons-nous notre espérance? De l'Église? D'une série de dogmes? Ou de la présence de Dieu? De qui tenons-nous notre espérance? Il faut faire attention, parce que nous pouvons nous tromper dans notre vie avec cela. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme que j'ai croisé il y a bien des années de cela déjà. Un jeune homme très sympathique, mais qui n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, on va dire. Les gens les plus méchants diraient qu'il lui manquait 2-3 minutes de cuisson. Il était super gentil, mais c'est vrai que c'était quelqu'un de... C'est toujours, parce qu'il est toujours là. C'est quelqu'un de très simple. Très simple et extrêmement attachant. Et un jour, on habitait Lausanne. Je le croise dans le M2, dans le métro. Et si vous avez déjà été dans le M2, vous savez que c'est dit. Toutes les voitures sont attachées les unes aux autres, on peut passer de l'une à l'autre comme ça, c'est un long tube. Et puis tout d'un coup, je vois mon ami à l'autre bout du truc qui faisait des grands signes, Pierre-Yves, comme ça. Hein. Et moi, j'essayais d'être discret à l'autre bout, comme ça. Et il est arrivé jusque vers moi, tout le wagon savait que je m'appelais Pierre-Yves, voilà. Merci pour la discrétion. On était en janvier et il me dit « J'ai une nouvelle incroyable ». J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?»« Je vais me marier. » Alors il avait une petite cinquantaine d'années et je savais que c'était vraiment son rêve absolu. Quoi. Il pensait que s'il se mariait, voilà, c'était le nirvana pour lui. Et je vais me marier. J'ai dit « Ah, super !» Et elle s'appelle comment? Ah, je ne sais pas. J'ai dit, comment ça, tu ne sais pas? Non, je ne sais pas, mais le pasteur, le 1er janvier, il nous a donné des bénédictions et il m'a dit que j'allais me marier. Alors, je ne sais pas exactement ce que le pasteur avait dit, comment il avait formulé ça. J'espère qu'il ne l'avait pas vraiment dit comme ça, mais mon ami avait compris ça. Je vais me marier. C'était son espérance. Je vais me marier cette année. Alors, bon, voilà, ok, d'accord, je ne vais pas le décourager. Je le retrouve une autre fois, à peu près au milieu de l'année, toujours aussi excité, je vais me marier. Puis j'ai dit, mais avec qui? Ben, je ne sais pas, mais je vais me marier avant la fin de l'année. Et je le retrouve en novembre. Et là, au même cinéma, hein, tout le métro, c'était toujours dans le métro que je le croisais. Et il arrive vers moi et il fouille dans ses poches et il sort une petite boîte, il l'ouvre, il me montre, il me dit « T'as vu, j'ai la bague !» J'ai dit « Oui, t'as la bague et t'as la femme ?»« Non, pas encore. Mais je vais me marier. » On était en novembre. Pour fin décembre, ça devenait court. Hein. À l'heure actuelle, il n'est toujours pas marié. Ça peut être juste un gag, mais c'est terrible. Quand on pose son espérance sur quelque chose qui n'existe pas, en fait. Et on peut faire ça au niveau spirituel. Je me rappelle un des derniers entretiens que j'ai eu avec ma sœur, qui est décédée d'un cancer au cerveau. Elle me disait, tu sais, Pierre-Yves, on m'a donné la foi pour vivre sur la terre, mais on ne m'a pas donné la foi pour aller au ciel. Vous voyez ce qu'elle voulait dire? Toute la spiritualité qu'elle avait vécue était tournée autour de la résolution de nos problèmes humains, de la gestion de notre être, etc. Mais cette ouverture vers le ciel, nous sommes en marche vers le ciel. Ce besoin d'éternité, elle ne l'avait pas rencontré encore. Elle l'a rencontré après, mais elle ne l'avait pas rencontré encore. Et comme c'est important. Nous sommes des pèlerins en marche vers le ciel. Si notre espérance elle est limitée à un peu de mieux-être intérieur, faisons du yoga. Non, mais franchement, Faisons de la méditation. C'est hyper efficace. Mais Jésus n'est pas venu sur la terre pour qu'on soit juste mieux dans nos baskets, même si on n'a pas de baskets. Dieu est venu sur terre pour nous ouvrir le chemin de l'éternité. C'est cela notre espérance. C'est cela notre espérance. Et ça doit habiter notre être. Alors c'est vrai que les jeunes vont se dire, ouais, le vieux là-haut, c'est normal, hein, il a déjà une basket dans le cercueil, donc c'est normal qu'il passe à l'éternité, mais nous, on a le temps. S'ouvrir à l'éternité, c'est s'ouvrir à la plénitude de Dieu. C'est s'ouvrir à l'immensité de sa grâce et de son être. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour ça. Parlez-moi du ciel. Oh, parlez-moi du ciel. C'est le cri d'une personne dont j'ai fait le livre il y a bien des années, une grande musicienne, Wilhelmine Malon. Plus personne connaît, mais elle vivait au siècle passé. Et toute sa vie, elle a pensé, parlé, prié le ciel. Parlez-moi du ciel. Que ce soit notre espérance aussi à nous. Pour conclure, j'aimerais vous raconter deux petites histoires. Mais avant, j'aimerais vous lire un texte. On a le temps ou bien encore? Ouais, vous avez du temps, hein? Ça va? Le rôti, vous avez proclamé... Bon, d'accord. Luc 13, depuis le verset 10. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue un jour de sabbat. Ça va, on va parler de la rigidité. J'ai beaucoup aimé le texte qui disait là, Dieu est souple. Hein, Dieu est souple. Et là, exemple de non-rigidité. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue un jour de sabbat. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. En la voyant, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, te voilà libérée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. Aussitôt, elle redevint droite et se mit à rendre gloire à Dieu. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus ait fait une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler, c'est donc ces jours-là qu'il faut venir pour vous faire guérir et pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Esprit perverti, est-ce que le jour du sabbat, chacun de vous ne détache pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme, fille d'Abraham, que Satan a liée voici 18 ans, n'est-ce pas le jour du sabbat qu'il fallait la détacher de ce lien ?» À ces paroles, tous ses adversaires étaient couverts de honte et toute la foule se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Il y a quelques années, on avait été appelé à animer un week-end avec une église adventiste. J'aime beaucoup les adventistes parce que ce sont des gens de la parole. Ce sont des gens qui sont très fondés sur la parole. Mais là, on est tombé sur une église qu'on ne connaissait pas et c'était vraiment des gens qui étaient très, très adventistes, on va dire. Un des adventistes, c'est le respect du sabbat. Alors, on avait fait une cérémonie d'entrée dans le sabbat le samedi, non, le vendredi soir. Ouais, le vendredi soir, entrer dans le sabbat, machin. C'était un peu bizarre. Et puis voilà, moi, dans ma grande innocence et une forme aussi d'inconscience, je lis ce texte, j'offre ce texte à la méditation. Eh bien, ça ne s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu une communauté entière être en désaccord flagrant, total et définitif avec Jésus. Je n'avais jamais imaginé que ça puisse se passer. Mais comme ça, sans phare, hein, Jésus avait tort. Il n'avait rien à faire ce jour-là. Il y avait les autres jours, mais pas ce jour-là. Il avait 6 jours pour guérir cette femme. Il n'avait qu'à revenir le lendemain. Mais il ne devait pas faire ça ce jour-là, parce que le jour du sabbat, on ne fait pas ça. Et ils étaient, c'était comme ça. D'ailleurs, vous devriez mettre un écriteau à l'église. L'église est ouverte du lundi au samedi, mais le dimanche, c'est fermé. Voilà, comme ça. On est rigide. Hein? On est rigide. Il y a quelques années, on était en vacances de l'île Chiquetère et on avait un hôtel dans un petit port où il y avait un chantier naval qui travaillait sur des vieux bateaux qui me plaisaient beaucoup. Et puis, après souper, on marchait dans le port, là, enfin, plutôt dans la vieille ville, et tout d'un coup, on entend une détonation, comme un coup de feu, hein, mais vraiment un coup de fusil. Et Daniel, qui était avec moi, était un peu... un peu stressé, il est en Italie, la mafia, tout ça. Puis j'explique que la mafia, c'est plutôt à Palerme, quoi. Là, on est dans le nord, il n'y a pas trop la mafia, on ne risque pas grand-chose. Et moi, j'étais intrigué, je dis, mais il me semble que ça vient du côté du port, il faut qu'on aille voir. Et puis, on se met en marche, et puis, tac, deuxième coup de feu. Et je dis, tac, quoi. Moi, je veux aller voir, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis... on arrive là sur le port et sur le quai là, et là il y avait une goélette que j'avais vue naviguer l'après-midi, une belle goélette en bois et qui était amarrée là. Et juste quand on allait arriver vers la goélette, et de nouveau cette détonation sèche comme ça, et je dis à Daniel, ah, je sais ce qui se passe. Et on est allé et il y avait les amarres qui étaient là. Et je me suis mis debout sur la mare et elle n'a pas branché. Hein. C'était comme une barre de fer. Elle était raide, raide. Et j'ai dit à Daniel, tu vois ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont navigué cet après-midi et ils ont mouillé les amarres. Il y avait beaucoup de vent et ils ont mouillé les amarres. Et quand ils l'ont amarré, eh bien, ils ont tendu les amarres. Et... elles étaient mouillées, c'est du chanvre, elles sont en train de sécher, et en séchant, elles se rétractent, donc elles deviennent plus courtes. Et là, elles sont en train de tirer, et ce qu'on entend, c'est les fibres qui lâchent, hein, qui taquent. Alors ce qui va se passer, c'est soit les amarres vont lâcher, soit quelque chose va péter sur le bateau. Mais rupture... il va y avoir. Rupture, il va y avoir. Parce que trop de rigidité. Trop de rigidité. Et il me semble que c'est quelque chose auquel nous devons être extrêmement attentifs. L'extrême rigidité chez nous n'est pas un facteur de sécurité. C'est un facteur de risque. Quand on est rigide sur nos idées, sur nos conceptions, sur nos positions théologiques... alors, moi, je trouve ça magnifique. On a des positions théologiques par rapport à un Dieu infini. Vous voyez la précision. Hein. On est de l'ordre du micron par rapport à l'infini, mais c'est hyper important. Hein, ce micron-là, mais tout dépend de ça, mes amis. On s'accroche comme des malades sur un point de détail, alors qu'on néglige l'infini de Dieu. Et ce serait rigolo si ça ne faisait pas tout péter parfois. Parce qu'on arrive tout d'un coup dans des situations qu'on ne peut plus comprendre, qui sont plus compatibles, quand notre foi n'est plus en adéquation avec les réalités de la vie, de notre vie. On arrive à un point de rupture, ou alors on est dans l'inconscience totale. Et c'est comme si on n'était pas du tout chrétien, spirituel, parce que ça ne s'accroche à rien du tout. C'est juste des petits nuages qui flottent autour de nous. La rigidité, mes amis, elle n'est pas de Dieu. Dieu est souple. Dieu est souple. Et une dernière petite histoire. J'aime bien raconter des histoires. Il y a quelques années, c'est toujours il y a quelques années, parce que, voilà, les années passent. Il y a quelques années, on avait décidé avec ma femme d'aller faire de la navigation en Irlande. Voilà, on est un peu du genre inconscient. Et on avait décidé d'aller naviguer sur la Shannon. La Shannon, qui est une rivière qui traverse un peu toute l'Irlande et qui, à peu près au milieu de l'île, se transforme en un dédale de lacs C'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est super beau. On avait loué un bateau à moteur, un assez gros machin. Et puis, bon, ce qu'on n'avait pas vraiment, on s'était pas vraiment rappelé, c'est qu'en Irlande, il y a souvent du vent, et qu'il y a parfois beaucoup de vent, et qu'il y a parfois beaucoup, 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 beaucoup de vent. Et là, on a été pris dans une assez grosse tempête, et ben, le lac qui était tranquille est devenu beaucoup moins tranquille, et c'était un peu plus compliqué à naviguer. Et un après-midi, on est arrivé vers une estacade, parce qu'il n'y avait pas vraiment de port, il y avait un peu partout des estacades où on pouvait s'amarrer pour passer la nuit, etc. On était en pleine nature, c'était magnifique. Et là, on arrive et il y avait un couple d'Anglais qui était en train de boire le thé sur la ch'tille. Et on est arrivé, là, on a accosté, Daniel a sauté du bateau pour commencer d'attacher le bateau. Je l'ai rejointe et en bon Suisse, j'ai attaché mon bateau costaud solide, hein, amarre bien tendu. Il y avait beaucoup de vagues et le bateau s'est mis à taper, vraiment à taper dans tous les sens. Il était hyper, hyper énervé. Et le monsieur anglais, qui était un vieux monsieur, qui devait avoir à peu près l'âge que j'ai maintenant, a posé sa tasse de thé. Il est venu tout doucement vers moi. Il m'a dit : vous permettez ? Et il a détaché un des cordages, il l'a rallongé d'un bon 1,50 m à 2 m peut-être, puis il l'a rattaché. Et le bateau, tout tranquillement, s'est mis à avancer le long de l'estacade jusqu'à ce que ça tourne à l'arrière, et puis il est reparti dans l'autre sens, tout tranquille, tout pépère, tout calme. Et l'anglais m'a dit, vous savez, il ne faut pas les attacher si raides comme ça, parce qu'ils n'aiment pas ça, les bateaux. Il faut leur laisser un peu de liberté. Et là, j'aimerais m'adresser aux gens de ma génération. Laissez un peu de liberté à vos jeunes. Attachez-les pas trop serrés. Moi, je vois des églises entières où il y avait des beaux jeunes qui étaient là. Et puis tout d'un coup, on arrive et ils ne sont plus là. Il dit, mais ils sont où les jeunes ? Ils sont partis. Ils ne viennent plus. Pourquoi ? Un peu trop serré. Un peu trop serré. Alors, ce n'est pas l'anarchie, hein ? Ce n'est pas détacher le bateau puis lui laisser aller où il veut. Ce n'est pas ça. Mais laisser du mou. Ne soyons pas trop à cheval sur le micron de ce qu'on connaît de Dieu. Hein. Laissons la souplesse, laissons la liberté, laissons la liberté de l'esprit, la liberté de la grâce, laissons la place aux idées contraires, laissons la place aux doutes. Les doutes sont une force dans la vie spirituelle, vous savez. Laissons la place aux doutes. Laissons la place aux expressions différentes de la spiritualité. On l'a vu ce matin, on peut faire de la louange sans chanter. Mais incroyable ça, incroyable. Dans certaines églises, on devrait leur apprendre qu'on peut louer le Seigneur en étant assis. Incroyable. Dans certaines églises, on devrait leur apprendre qu'on peut faire de la louange en étant debout. Incroyable. On peut faire autrement. Parce que Dieu est grand. Parce que Dieu est libre, parce que Dieu est souple. Et que c'est comme cela qu'il veut qu'on soit. Amen.
Amen.
Amen.